Seb, est-ce que tu peux faire le clap le plus sexy qu'a jamais vu cette caméra? C'est pas mal, c'est pas mal. Salut Rebelles Intelligents, je suis actuellement à Lisbonne avec Seb. Salut Seb.
Hey,
ça va
Olivier? Ça va, très bien.
Bah oui. Donc tu es donc le chéri d'une élève de Blogueur Pro.
Exactement.
Qui est donc Sandra FM, dont si vous êtes vraiment assidu sur la chaîne, vous avez peut-être vu l'étude de cas qu'on a publiée il y a quelques temps déjà. Donc Sandra, elle est en gros docteur en santé publique et elle a un blog sur l'alimentation, la santé. Et toi, tu fais un truc qui n'a absolument rien à voir,
voilà.
Mais tu es entrepreneur. Et quand tu m'as parlé un petit peu de ce que tu fais, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Parce que notamment, tu as une entreprise, on va dire classique, hein, tu fais pas, t'es pas sur le web, tu as vraiment une entreprise de service, on va dire 1-0, mais pourtant, elle est à 95% déléguée, optimisée, automatisée. Et ça, je trouve ça fascinant parce que finalement, on rencontre beaucoup de gens qui ont des boîtes sur le web et qui automatisent plus ou moins, mais des gens dans le monde réel, c'est déjà un peu plus rare. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire, donc tu m'as dit que la découverte de la semaine de 4 heures a changé ta vie. Qu'est-ce que tu faisais avant la semaine de 4 heures déjà?
Avant, j'étais ingénieur qualité dans les hôpitaux.
Okay.
J'ai travaillé pendant 3-4 ans en fait en tant qu'ingénieur qualité, donc parcours très classique, une école d'ingé, voilà, tout ce qui est de plus classique, j'étais jusqu'au bout moi du coup. Voilà.
Ça arrive même au meilleur, hein.
Voilà,
no worries.
Malheureusement. et au bout d'un moment, je recommençais à suivre ta chaîne en fait. Sandra aussi commençait à suivre la chaîne, à suivre les blogueurs pro. Et on voyait en fait qu'il y avait un autre monde possible que le salarié. Que les semaines de 40 heures au boulot, 9h, 18h, etc. à Paris en plus. Donc pour moi, c'était pas la vie de rêve, on va dire. Et puis j'ai eu envie d'entreprendre, j'avais eu cette petite graine voilà, qui était un petit peu là depuis mes études. Je savais que j'allais pas faire. Je pensais que j'allais commencer une vie entrepreneuriale, mais plutôt à 40, 45 ans, quand tu as fait un bon moment de cadre, une bonne expérience.
Ce qui est finalement la vision classique de la plupart des gens.
Carrément, ouais. Carrément. Et puis avec le livre, j'ai pris une bonne claque.
Donc la semaine de 4 heures.
Ouais, la semaine de 4 heures que je vous conseille.
Donc tu l'as découvert à peu près au même moment où tu as commencé à me suivre?
Il y a 4 ans à peu près, ouais.
D'accord.
Ouais. Okay. 4 ans, je l'ai lu, je l'ai dévoré vraiment. Je l'ai vraiment dévoré. Je me suis dit qu'il y avait des possibilités autres en fait. Ça m'a ouvert l'esprit en fait. Je n'ai pas forcément appliqué le bouquin en tant que tel, peut-être un peu sur les mails, sur voilà, la partie organisation un peu interne. Mon organisation au travail en tout cas, mais je n'ai pas appliqué tel quel. Par contre, je me suis dit, oh là, il y a peut-être autre chose qui va arriver et peut-être plus vite que prévu, quoi. Plus vite que ce que je pensais. Puisque quand j'ai vu un peu Tim Ferriss, son blog et tout ça, j'ai vu qu'il n'était pas forcément très âgé non plus et qu'il avait commencé assez tôt.
Oui.
Et puis de fil en aiguille, voilà, on part sur Tim Ferriss. Après, j'ai été un petit peu sur ton blog aussi. J'ai vu qu'il y avait tout âge, tout métier, tout corps d'activité, etc. Donc je me suis dit que c'était possible bien avant que ce que je pensais mentalement au départ, quoi.
D'accord. Donc tu as découvert ça, tu étais encore employé, donc c'est ça qui t'a dit, qui t'a fait déclencher cette impulsion de devenir entrepreneur.
Ouais.
Ok. Et plus jeune que ce que tu pensais.
Ouais.
Donc tu dis ok, je veux devenir entrepreneur. Comment tu as concrétisé ça?
Alors du coup, j'avais pas l'idée magique en fait. Moi, j'avais pas le truc, la passion où je me dis paf, je vais me lancer dans un domaine d'activité ou dans mon domaine d'expertise, etc. C'était pas ma passion. J'aimais ce que je faisais, mais c'était pas débordant. Je faisais pas ça hors du travail, le week-end, etc. Donc moi, je me suis intéressé à un autre système qui est la franchise.
Oui.
Voilà, j'ai alors. C'est un lien avec la qualité en fait, parce que la qualité c'est juste dupliquer des modèles dans les organisations qui fonctionnent et les refaire dans d'autres endroits. Grosso modo, pour moi c'est ça la qualité. Je me suis dit, il y a des choses qui marchent, il y a des entreprises qui marchent déjà, il suffit juste de dupliquer le modèle, d'appliquer les procédures et hop, ça irait tout seul, quoi.
Okay.
Ça me rassurait entre guillemets.
Parce que donc, je résume quand même pour la franchise, parce que peut-être que certaines personnes ne connaissent pas, cette idée qu'il y a déjà quelqu'un qui a mis en place le business model quelque part, ça a été testé sur le terrain, ça a été rentable et à partir de là, il donne tout ce qu'il faut pour dupliquer le modèle ailleurs. Mm-hmm. Toi, tu dois payer un droit d'entrée pour avoir accès finalement au savoir, au manuel des opérations, etc. etc. Et derrière, tu bénéficies de son savoir-faire, aussi de son branding, hein, parce qu'il peut faire de la pub éventuellement au niveau national, et de tout son marketing et tout ça. Et du coup, ça te permet de rentrer plus facilement dans le monde de l'entrepreneuriat.
Ouais, moi, c'était une façon de diminuer mes risques, en fait. Je me suis dit, en gros, c'est des chiffres qu'on a souvent. Alors, bon, ils sont plus ou moins discutables. Tu as fait une vidéo là-dessus, mais il y en a une sur deux entreprises qui ferment dans les 3 à 5 ans,
dans les 5 ans.
Après l'ouverture.
Ouais.
Je me suis dit, oh là, déjà, je suis jeune, j'ai pas d'autres expériences entrepreneuriales. Autant s'adosser sur quelqu'un qui a déjà fait le concept, qui a déjà expérimenté quelque part, et dupliquer sa façon de faire, la procédure, le manuel opératoire. Et ça me permet de diminuer les risques tout en entreprenant, en étant commerçant indépendant localement.
Donc tu décides, alors tu as décidé dès le départ de partir sur une franchise ou tu as trouvé une opportunité qui était elle-même une franchise, c'est ça qui t'a décidé?
Moi le déclic en fait c'est que j'ai relié ce que je faisais à la qualité et à l'hôpital. En fait j'ai vu à l'hôpital, je me suis dit il y avait, j'ai vu une problématique dans les services qui était avec les personnes âgées, où il y avait un turnover incessant de personnes âgées et une problématique sur la dénutrition des personnes âgées. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est trop en fait. Il y a trop de patients qui tournent, etc. Et en discutant un peu avec les patients et avec les assistantes sociales dans les hôpitaux, j'ai vu que en fait, il y avait un marché qui n'était pas forcément... pris encore ou bien exploité, qui étaient les services à la personne à domicile et plus une partie restauration, donc plus les repas à domicile. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que quand j'en parlais aux assistantes sociales qui, elles, étaient vraiment dans le métier, parce que c'était leur rôle d'assurer la sortie des patients, leur retour à la maison après l'hospitalisation. Et du coup, elles me disaient, dans les 2 minutes qui venaient, c'est pas bon, ou les gens arrêtent après un mois, tu vois. Il y avait pas de cohérence entre...
Donc, tu as vraiment vu ce besoin à partir de ton expérience de terrain.
C'est ça. Ouais.
Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, vous pouvez regarder un peu les frustrations qui sont autour de vous, les choses qui ne fonctionnent pas. Et peut-être que vous pouvez être la personne qui va apporter la solution.
Ouais. Et après, je l'ai vu avec mes grands-parents, en fait, parce que mes grands-parents étaient à peu près dans cette tranche d'âge-là. Et du coup, ils se sont fait livrer, en fait, à domicile. Et j'ai vu, en fait, ce qui se passait. J'ai vu la qualité de service qui n'était pas top. Et j'ai vu la qualité de la nourriture qui n'était pas sincèrement top non plus. Et du coup, je me suis rapproché d'une franchise qui faisait ça déjà depuis entre 5 et 6 ans. Voilà, et ça fait déjà 5-6 ans qu'ils étaient ouverts à la franchise. Et donc, je me suis installé après à Saint-Malo, du coup.
Ok. Et donc, d'accord, donc tu démarres la franchise. Donc, au début, c'est toi qui fais tout. Et alors, donc raconte au quotidien. Est-ce que tu avais le quotidien classique d'un entrepreneur surmené, 70 heures par semaine ou...
Ouais, au début, ouais. Ouais,
d'accord.
Au début,
Donc là, tu t'es quand même dit, c'est pas la semaine de 4 heures
non,
le truc.
Non, c'est pas la semaine de 4 heures du tout.
Ouais.
Du tout. Non, non, on va dire les 8 premiers mois, ça a été costaud. Quoi. Bah, c'était 6 heures du matin, 19 heures, quoi, tous les jours, sans trop de pause. Quoi. Donc, des belles journées. Donc, je me suis dit que le système comme ça, j'allais pas le vivre à vie en fait. C'était pas mon but, c'était pas ce que j'avais vu dans la semaine de 4 heures, c'est pas ce que toi tu racontais un petit peu sur le blog aussi. Je me suis dit qu'il y avait d'autres moyens de fonctionner. Donc j'ai tout de suite pensé en fait à un système où une organisation où je pouvais déléguer en fait et que je n'ai pas à travailler non-stop, que je ne sois pas obligatoirement présent sur site non-stop. C'était vraiment l'objectif. Quand je l'ai créé au tout début, je ne l'ai pas forcément vu, mais après 2-3 mois, je me suis dit ça peut pas, je ne vais pas durer comme ça. C'était intéressant, hein, c'était super intéressant le contact client, exercer le métier, etc. Ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de déléguer, je pense, de manière intelligente parce que je connais vraiment le métier de fond. Mais voilà, le but, c'était vraiment de déléguer. Je m'étais fixé en fait 3 ans à partir de ce moment-là pour pouvoir tout déléguer, tout automatiser. Et donc là, ça fait 3 ans.
Mais alors, attends, ok. Donc, mais du coup, comment tu as fait ça progressivement? Parce que c'est ça qui est intéressant. À la base, ta boîte, c'est vraiment une boîte de brick and mortar, comme disent les amis anglo-saxons, quoi, de brick and mortier, une boîte 1-0. Comment tu as fait?
Ça s'est fait un petit peu par étapes, en fait. Déjà, le premier levier pour moi, ça a été il faut qu'il y ait une belle croissance, en fait. Déjà, il faut que financièrement et en nombre de clients, on se développe très vite. Donc je me suis vraiment attelé à ça, j'ai essayé vraiment de faire les choses bien pour ça, parce que on peut pas passer une phase de délégation si déjà financièrement ça colle pas dans le business. Donc il a fallu déjà développer de manière vraiment assez rapide l'entreprise en termes de volume, on va dire, parce qu'on a besoin de volume dans ce type d'activité. Et donc du coup il a vraiment fallu commercialement avoir un accélérateur là-dessus, un levier là-dessus. J'ai utilisé en fait ce que je connaissais des hôpitaux, du vocabulaire, des prescripteurs, voilà, que je connaissais bien, les médecins, les infirmiers, etc. Donc ça m'a permis vraiment de sentir un petit peu le marché, de répondre vraiment aux attentes des médecins, des assistantes sociales, des infirmiers, etc. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir une croissance qui était plus rapide que dans d'autres agences qui ont ouvert en même temps que moi. Donc ça, c'était vraiment le premier levier. Et après, c'était de recruter les bonnes personnes au bon moment. Donc, ça, c'est vraiment
Mais il n'y a pas que recruter, il y a aussi le fait derrière de pouvoir les former efficacement, mais aussi qu'ils n'aient pas besoin de t'appeler au moindre problème parce qu'ils ne savent pas comment faire ou qu'ils ont besoin de ta décision. Donc, ok, j'ai bien compris que tu avais les connexions et tout ça dans le milieu spotérique, ça t'a aidé. Mais finalement, quel processus tu as mis en place pour que les gens n'aient pas besoin de toi?
Ouais.
Parce que c'est ça le plus dur pour un entrepreneur, c'est pas de recruter, c'est de s'enlever de l'organigramme.
C'est ça. J'ai une structuration dans l'organisation qui est très, on va dire, individuelle. Donc, c'est-à-dire que chaque corps de métier et chaque personne, en fait, a vraiment ses responsabilités qui sont définies.
Ok.
Moi, ce que j'ai vu dans les hôpitaux, en tout cas, et dans d'autres organisations, pour en avoir parlé avec beaucoup de managers, la friction, pour moi, elle intervient quand il y a des partages de responsabilités ou des partages de tâches qui se font ou des transferts de, des transmissions de tâches. C'est-à-dire une personne fait le job le matin et une autre fait l'après-midi. C'est là où, pour moi, il y a de la friction en général, parce que les gens n'ont pas forcément les bons moyens de communiquer ou ne se comprennent pas les uns et les autres. Ils ont d'autres façons de communiquer les uns envers les autres. Et là, ça commence à frictionner un petit peu. Et donc, du coup, dans ma société, en fait, le but, c'est vraiment que chaque personne ait ses responsabilités et son cadre d'action. Donc, par exemple, un livreur chez nous a sa tournée avec ses clients. Voilà, c'est ses clients, c'est lui qui doit se gérer.
Mais du coup, est-ce que ça te rend pas dépendant d'une personne en particulier? Parce que si elle part, du coup, est-ce que c'est pas plus dur de trouver un remplaçant qui va savoir prendre sa place?
Ouais, alors on a très peu de turnover.
Ok. Ça, c'est, donc tu arrives à bien fidéliser les employés, c'est aussi une clé.
Ouais, j'arrive assez à fidéliser, j'ai les mêmes personnes depuis le départ en fait. Et ça, je pense que c'est dû à que justement les responsabilités sont délimitées. Du coup, les gens sont impliqués, ils sont autonomes. Et pour moi, il y a une clé qui est, il faut qu'ils soient décisionnaires en fait sur leur tournée ou sur leur responsabilité à l'agence. C'est-à-dire que ma responsable d'agence a par exemple la carte bleue de l'entreprise, elle a un montant minimum jusqu'à 100 euros où elle peut vraiment faire tous les achats qu'elle veut au quotidien, voilà, s'il y a besoin. Ils sont ce que j'appelle decision makers, c'est-à-dire ils font vraiment, ils participent à la décision, ils n'ont pas besoin de m'appeler pour savoir si je valide quelque chose.
Ouais.
En général, la peur des entrepreneurs 1.0, c'est qu'ils pensent que les gens vont faire des mauvaises décisions et qu'ils ne vont pas avoir l'œil ou l'écoute ou la vision de ça. Mais au final, les gens savent ce qu'ils font. Pour moi, je leur fais confiance.
Donc,
en fait,
il y a cette confiance qui est vraiment importante, ouais, dans le processus. Est-ce que tu as des procédures écrites ou vidéo?
Ouais. Alors, j'ai beaucoup de procédures écrites.
En plus, toi, à la base, c'est dans la qualité.
Ouais.
Donc, c'est vraiment ça, quoi. À la base, tout doit être décrit.
J'ai beaucoup de procédures, en fait, que les gens… Alors, ils sont formés avec, ils les lisent à l'entrée, ils les voient théoriquement. Mais après, sur le terrain, mon job, c'est de tout faire pour qu'ils n'aient pas besoin de se demander si c'est leur rôle ou pas.
D'accord.
Donc, elles sont écrites, elles sont très claires pour moi. En fait, moi, je sais très, très bien ce qu'il y a dans les procédures. Par contre, mon rôle, c'est de ne pas avoir à ce que l'employé aille chercher l'information. S'il va chercher l'information, c'est qu'il ne sait plus si c'est son rôle ou pas. Et du coup, là, ça devient problématique. Parce que c'est-à-dire que l'organisation n'est pas fluide et qu'il ne sait pas qui doit faire ça dans l'entreprise. Et ça, c'est pas bon en général.
Ok. Donc, tu pars du principe qu'il doit connaître par cœur, parce que les tâches ne sont pas non plus extrêmement complexes.
Non, 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 c'est des tâches, on est sur des tâches relativement basiques. Ce que nous, on demande aux livreurs, par exemple, qui travaillent chez moi, c'est beaucoup plus le contact social et humain avec les personnes que vraiment une tâche complexe de technicien ou d'expertise sur un domaine. C'est comme un petit peu un milieu industriel, c'est-à-dire que les tâches sont répétitives. Donc, grosso modo, une fois qu'ils sont là pendant 1-2 mois, ils savent leur métier. Après, c'est juste plutôt l'écoute qu'il faut travailler, les compétences sociales.
Et du coup, comment tu fais pour contrôler? Parce que tu dis par exemple qu'un élément important de ton process, aussi de ton entreprise, c'est le lien social, parce qu'effectivement, c'est important dans la relation client, et puis étant donné le type de clientèle que tu as. Comment tu fais pour vérifier ça? Est-ce que tu fais des appels auprès des clients pour savoir qu'ils sont contents? Est-ce que tu fais des sondages? Est-ce que tu as des clients mystères qui te font des rapports? Comment ça marche?
Je garde un contact avec la clientèle.
D'accord.
En fait.
Donc, c'est-à-dire tu appelles de temps en temps?
Ouais, j'appelle de temps en temps en demandant dans un premier temps la qualité au niveau du repas, vraiment le cœur de l'activité, vraiment la matière, vraiment par rapport à ça. après j'extrapole sur l'employé, sur l'organisation, sur la qualité globale de l'entreprise et je vois ce qui sort un peu, je sens un petit peu ce qui sort. Pour mettre dans le contexte, mes clients sont des personnes âgées.
Oui, c'est pour ça que je dis ça.
Quand on les appelle, voilà, ils aiment bien parler, ils aiment bien prendre le temps, etc. Donc ils s'ouvrent assez facilement en fait. Je garde ce contact client, ça me permet vraiment de situer mon entreprise par rapport à la qualité de service, par rapport à la qualité des repas et sonder un petit peu ça directement auprès des clients et pas perdre ce lien-là. C'est quelque chose que je fais régulièrement quand même et ça me permet de garder le fil tout en n'étant pas sur place, de garder le fil de ce qui se passe parce que les clients ça va être rien, mais par exemple s'ils nous disent rien sur ah ça se passe très bien avec tel salarié, il est hyper sympa, il m'a parlé de ça, on a parlé de Saint-Malo, de l'histoire, etc. ou un accroche, un sujet. Si j'entends pas ça par exemple, c'est que là déjà il y a peut-être une connexion qui se fait pas.
Donc tu vois aussi les choses qu'on te remonte pas.
Voilà, c'est ça.
Ok, ouais. Intéressant. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu discutes avec l'employé, tu lui dis voilà, il faut faire ça, ça, ça.
Ouais, alors très souvent, en tout cas mon analyse des situations où on doit recadrer par exemple un employé sur les tâches ou sur la qualité de service ou autre, c'est que le salarié a perdu le sens de l'entreprise et la vocation de l'entreprise. Un salarié qui ne s'implique pas assez à notre goût en tant qu'employeur, c'est très souvent qu'il n'est soit pas à sa bonne place, et du coup là il faut trouver une autre place dans l'organisation. Ou alors une autre place à l'extérieur de l'organisation, ça peut arriver aussi. Soit qu'ils ont un peu perdu le sens ou un peu perdu, qu'ils sont un peu trop terre à terre dans les tâches. Par exemple, un employé, moi, que ça a déjà arrivé, qui banalise un peu le lavage, par exemple, des véhicules, l'entretien des véhicules, etc. C'est qu'il n'a pas connecté que la sécurité alimentaire c'est hyper important pour nos personnes âgées parce qu'ils sont hyper sensibles et que la moindre bactérie ou le moindre petite saleté qu'il peut y avoir sur les barquettes ou en contact alimentaire avec nos produits peut impacter vraiment les personnes âgées. Ça peut être une hospitalisation, ça peut être beaucoup de choses. Ils sont beaucoup plus sensibles. Et ça, c'est l'employé, il a un peu oublié ou on ne lui a pas assez rappelé peut-être ça. Et du coup, la personne, elle reconnecte au sens. Et à partir de ce moment-là, elle refait, elle se réimplique, elle relave le véhicule et elle repart dans la bonne procédure, etc.
Donc, c'est intéressant, tu as dit beaucoup de choses finalement. Donc là, c'est sur l'idée d'être connecté à la mission d'entreprise, de bien comprendre que même si tu as une petite place dans l'organisation et que tu as l'impression d'un petit rouage qui ne sert à rien, en fait, tu as une utilité et que c'est par la qualité de ton travail, finalement, de ton éthique et de ta démarche que tu vas apporter de la valeur. Ça rejoint beaucoup ce que les Japonais font si tu vas au Japon. Tu vois bien que les Japonais, quelle que soit leur place dans la société, ils ont tous conscience de le rôle qu'ils ont à jouer et qu'ils font très consciencieusement. Ça fait partie des forces de la culture japonaise. Et please wait. Your truck is moving. Ah, il est là en fait le bus. Ok, on continue. Enfin, j'espère. Et du coup, aujourd'hui, donc, tu as délégué 95% du truc. Tu travailles combien d'heures par semaine dans ton entreprise à peu près?
Combien d'heures? C'est une bonne question. Je dirais 4-5 heures.
Oui, donc tu es vraiment à la semaine de 4 heures là.
Ouais.
D'accord. Et du coup, tes employés, est-ce qu'ils vivent bien ça? Est-ce qu'ils ne se rendent pas dans l'équation?
Je pense que oui, très sincèrement. Parce que par exemple, je prends le rôle de l'exemple de ma responsable d'agence, par exemple. C'est une personne qui avait 24 ans. Et qui sortait tout juste de diplôme en fait. Et je lui ai permis d'accéder à des responsabilités assez vite et assez naturellement en fait. Et ça, c'est pour elle un beau tremplin. Moi, j'ai un programme. Alors après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Je n'en sais rien. Je verrai après pour vous dire. Mais j'ai un programme sur 3-4 ans en fait avec mes salariés où j'ai un projet voilà, avec eux sur 3-4 ans. Et donc, on sait à peu près où on va. Même on sait clairement où on va avec la responsable d'agence. Et le but, c'est de voilà qu'elle gère vraiment l'intégralité de la société au bout d'un moment, de A à Z. Et de faire
donc
ça
tu trouves la bonne personne, ans, lui confier les bonnes responsabilités, peut-être même auxquelles elle s'attend pas.
Ouais.
Et du coup, ça la drive. Et...
C'est plus qu'elle cherchait. Et même elle m'a dit après coup qu'elle pensait pas du tout être prise à l'entretien parce que les responsabilités étaient trop grandes en fait par rapport à sa non-expérience dans le métier. Et du coup, mentalement, elle s'est dit Ah ouais, voilà, en fait, on croit en moi, donc je suis challengé un petit peu, et du coup, bah, je vais faire tout pour que ça fonctionne, quoi.
Ok. D'accord. Donc, c'est intéressant. Donc, pour récapituler, première étape, donc, t'as lancé la boîte, c'est important de le rappeler parce que tellement de gens rêvent de ça, ils font jamais rien. Ouais. Mais donc, t'es parti quand même d'une frustration que t'as repérée sur ton marché, et ça, c'est très intéressant, les robots intelligents. Dès que vous entendez quelqu'un râler, dès que vous râlez, dès que vous voyez quelque chose beaucoup de gens qui râlent tout le temps régulièrement sur un truc, c'est une opportunité de business, clairement. Ensuite, donc, dès que t'as rodé un peu, tu as vu comment ça marchait, tout de suite, tu t'es mis dans une démarche pour automatiser un maximum ça. Donc, c'est passé par le recrutement et la mise en place donc, de processus, hein, de process, mais aussi le fait que finalement, tu es dans un business où les tâches sont simples, on n'est pas en train de construire des centrales nucléaires. Et donc, voilà. Et tu gardes quand même un contrôle qualité en appelant les clients. C'est important parce qu'il y a toujours une limite en termes d'automatisation, de délégation. Qu'il faut peut-être pas franchir et toi tu gardes quand même un contrôle et tu peux voir grâce au client tout de suite s'il y a un truc qui va pas en fait. Tu restes branché sur ton marché et tu le fais juste en mode 24/20. Et puis il y a aussi donc cette idée de savoir faire confiance à tes employés, on le voit aussi pour ta directrice d'agence et ça implique aussi de leur confier des choses auxquelles peut-être même eux ils pensent pas qu'ils peuvent le faire, tu vois. Donc de savoir repérer les talents, c'est ça, hein, je résume bien. Voilà, donc c'est super intéressant et c'est important de savoir, parce qu'il y a plein de gens qui mettent ça en place et qui continuent à bosser 70 heures par semaine parce que finalement ils savent pas quoi faire d'autre, tu vois. On en parlait un peu hors caméra, c'est que toi-même tu dis bah parfois je m'ennuie un peu et je vais au bureau un peu histoire de m'occuper, ce qui est exactement ce qu'il faut éviter, mais t'as pas eu peur de regarder le vide en face, dans le sens où souvent c'est un des conseils de Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures, c'est que avant d'apprendre à être plus productif, avant d'apprendre à déléguer, à automatiser, vous devez combler le vide en trouvant quelque chose qui vous remplisse à l'extérieur du travail. Parce que si vous gagnez 2 heures par semaine et que vous ne savez pas quoi faire ces 2 heures et que vous êtes devant votre ordi, par défaut vous faites quoi? Vous bossez, ou en tout cas vous faites semblant de bosser, ou vous regardez des vidéos de chat sur YouTube et au final ça revient au même, quoi. Mais donc toi tu as quand même osé te mettre en habit, mais finalement en faisant une approche différente, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de trucs qui te passionnent en dehors du travail aujourd'hui.
Pas encore.
Mais là, tu es en train de lancer 2 nouveaux business.
Ouais. Alors, j'ai vraiment aimé en fait ce process là de déléguer, d'automatiser. Je pense que c'est gagnant-gagnant, c'est gagnant pour moi. Je pense que c'est gagnant pour mes salariés qui accèdent à des responsabilités et des tâches et une autonomie aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas toujours derrière eux, voilà, les sermonner. Voilà. Je pense que c'est vraiment gagnant-gagnant là-dessus et j'ai envie de développer ça dans d'autres circonstances. Donc là, je suis en train de lancer 2 projets, donc 2 autres franchises actuellement là pour les prochains mois qui arrivent. Et le but, c'est de refaire pareil. Donc là, je m'étais fixé un cap sur 3 ans pour automatiser le premier. Là, on est parti sur quelque chose d'un peu plus challengeant. On va partir sur 3 mois. Donc, la même procédure, mais en beaucoup plus rapide, puisque maintenant, je connais un peu le modèle. Il suffit juste de le dupliquer. Donc là, ce sera sur d'autres secteurs d'activité. Mais peu importe, la démarche reste la même, en fait. Et donc, voilà. Donc, c'est mes 3-4 prochains mois là, qui sont dédiés à ça, en fait.
Ok, wow, cool. Oui, parce que c'est intéressant finalement. Ce modèle que tu as mis en place, tu peux le dupliquer. Bon, tu pourrais le dupliquer en franchise. Bon, là, tu ne peux pas puisque tu es un franchisé. Mais tu peux le dupliquer dans d'autres domaines finalement où il y a cette méthode de copier-coller qui peut être appliquée. Et ça, c'est intéressant aussi parce que, donc, comme tu l'as dit, tu viens d'un monde où le copier-coller, c'est la norme et où tu vas prendre des trucs qui ont fonctionné ailleurs et les appliquer à un autre endroit. Mais pour beaucoup de gens, c'est déjà un gouffre à franchir de se dire, mais attends, comment ça tu peux prendre un truc qui marche ailleurs et l'appliquer ici? Parce qu'ils sont beaucoup de gens sont dans leur truc, mais non, il faut être créatif, il faut inventer les trucs par soi-même et tout ça. Mais non, les amis, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Il y a des tas de trucs qui marchent dans les secteurs que vous pouvez appliquer dans d'autres secteurs et parfois révolutionner des secteurs en amenant des choses qui sont complètement banales dans un autre domaine, mais qui sont complètement inconnues dans le secteur en question. Et il faut savoir repérer les choses qui marchent et savoir faire des copier-coller. Et ça aussi, c'est une excellente leçon finalement de ton parcours et de tout ce que tu as partagé aujourd'hui.
C'est clair, oui, il faut pas hésiter en fait. S'il y a des choses qui marchent déjà, il suffit juste de les prendre, de refaire pareil. Et voilà, en fonction des objectifs de chacun, moi ça me suffit largement. Je n'ai pas le besoin de créer le truc hyper innovant, hyper déstructurant pour un secteur d'activité ou autre. Moi ça me convient très bien, ça me permet de voyager, d'avoir du temps libre, d'avoir d'autres activités en parallèle. Voilà, et ça me suffit largement dans mes besoins en tout cas.
Oui, et voilà, ça peut aussi vous inspirer. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être Picasso et de révolutionner une industrie pour apporter de la valeur. Parce que toi, tu te contentes, entre guillemets. Je veux dire, tu prends des business models existants, franchise, et puis après, tu dupliques ton savoir-faire dans d'autres secteurs, mais tu apportes énormément de valeur. Donc, tu vois, vous apportez quand même de la valeur à la société. C'est un peu un mythe comme ça qu'il faut être une sorte de, je sais pas, moi, super créatif de fou pour réussir. Il y a aussi des frères allemands qui ont bâti une fortune en copiant ce qui se fait aux États-Unis, en le ramenant en Allemagne, dans le monde entier. Aujourd'hui, ils ont un vrai savoir-faire. Et les boîtes américaines les contactent pour les aider à s'implémenter un peu partout dans le monde parce qu'ils ont ce savoir-faire de savoir prendre un business américain ou autre et l'adapter aux cultures locales dans énormément de pays.
Ouais, c'est top. Après, il y a vraiment le passage à l'action, quoi. C'est-à-dire, moi, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Vraiment, je ne savais pas ce qui me drivait, la passion, voilà, le cœur de métier que je voulais faire. Donc, j'ai juste commencé à dupliquer. Voilà, ça a fonctionné. Je vais continuer à le faire. Et puis ça va m'amener petit à petit à peut-être quelque chose de plus grand. Mais pour l'instant, je n'en ai pas forcément l'idée révolutionnaire. Donc je continue à avancer, ça me donne beaucoup d'expérience. Je comprends qu'en termes de compétences, j'augmente énormément mon savoir-faire. Et je sais que ça, très bien, dans 10 ou 15 ans, ça me servira forcément dans peut-être la grande idée sur le métier, mais ou peut-être pas, ça dépend en fonction des besoins et des envies que j'aurai vraiment à ce moment-là.
Alright, bah écoute, merci Seb d'avoir partagé tout ça avec nous.
Yes.
High five à toi. Et puis donc, bah, bon courage, bonne chance pour tes prochains projets. Ouais. Ah ouais. Donc, quand même une question qui me titille, hein, un jour, formation sur le web de tout ça, sur tout ça ou pas?
Peut-être un jour. Je ne suis pas un grand technophile, c'est pour ça que je n'ai pas abordé le côté de l'entrepreneuriat par le 2.0, mais peut-être un jour, ouais. Peut-être c'est probable, il faudra voir après déjà mes deux premiers projets et puis peut-être l'année prochaine, on ne sait jamais.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur? Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspiré tous les jours ou presque par lui. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures.